chose de nouveau. Donc, dans la loi, il est prévu de libérer les esclaves, de les affranchir. Or, les pouvoirs en place vont souvent refuser d'affranchir les esclaves, et là-dessus, Jérémie va les attaquer violemment contre ce refus d'affranchir les esclaves. Ils dénoncent aussi l'inhumanité de ceux qui prêtent de l'argent. Les banques. Quand vous voyez, bon, on a un cas précis.
Je ne savais pas que la banque était humaine.
Mais oui, mais l'inhumanité des prêteurs, c'est-à-dire quand vous voyez les banques qui attaquent, ils ont attaqué une personne parce qu'elle avait 300 euros de découvert, que cette personne vivait avec 600 euros par mois, et qu'on lui imposait par chaque moment de découvert 20 euros. De 26 euros de découvert, et que ces 26 euros montaient. Et les banques, pour beaucoup, leur revenu vient un peu de ça.
Oui.
Un peu pas mal.
Par contre,
des gens les plus faibles qui ne peuvent pas payer et des découverts. Donc, ça, c'est dénoncé très sérieusement par les prophètes. Et enfin, dénonce tous ceux qui écrasent les pauvres. Qui exploitent, tous les exploiteurs. Et ceux qui écrasent les pauvres et les émigrés. Et les émigrés.
Pour les pauvres, ça va, mais les émigrés.
Alors, voilà quels sont les péchés qui sont dénoncés. Et ces actes-là, ces péchés, vont entraîner la mort du peuple. Si vous appuyez sur ça, contrairement à ce qu'on croit, si vous appuyez sur la domination des plus faibles et tout ça, eh bien, ça va marcher un temps. Ça va marcher un temps, mais ça ne va pas durer. Il ne faut pas croire. Ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. Parce que toutes ces approches d'injustice, ça mine justement un peuple. Ce qui construit un peuple, c'est la communion entre les personnes, et tous ces actes-là vont miner la communion. Donc ils vont induire une destruction par un ver à l'intérieur du peuple. Voilà. Toutes ces fautes vont être dénoncées par les prophètes. Et alors, Yahvé va se lamenter. Il y avait et de ce peuple, c'est son peuple qu'il a choisi, qu'il a tiré, qu'il a essayé d'éduquer, et on a dit pour qui retombe dans l'injustice, qui retombe dans le culte, qui s'aliène avec des faux dieux. Enfin bon. Donc il est et alors il y a ce petit passage de Osée qui où Dieu se lamente. Quand Israël était jeune. Il fait référence à l'Égypte. Je l'ai aimé, toujours l'amour. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mon fils. Ce peuple, il appelle son fils. Et ceux qui les a appelés, ils se sont écartés. Ils se sont écartés de ces prophètes qui les ont appelés. Ils se sont écartés. Et c'est au Baal qu'ils sont sacrifiés. C'est à des idoles taillées qu'ils ont brûlé des offrandes. C'est pourtant moi qui avais appris à marcher à Éphraïm. Éphraïm, c'est le deuxième nom du peuple. C'est moi qui leur avais appris à marcher, les prenant par les bras. Mais ils n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leurs joues et je lui tendais de quoi se nourrir.
C'est beau.
Hein oui. Vous voyez, donc c'est se lamente parce que c'était ce peuple, il l'a couvé, il l'a fait naître. Et le peuple le trahit. Bon, il y a plein de passages comme ça dans la Bible où il se lamente de ce qui est devenu son peuple. Ce peuple qu'il aime malgré tout. et dont il a fait des à qui il a fait des promesses, et en particulier d'une royauté éternelle.
Ah oui.
Hein? Or, vous voyez aussi le paradoxe, il promet une royauté, un territoire éternel, un gouvernement éternel, et en même temps, il le conditionne à l'application d'une loi. Il dit, si vous ne l'appliquez pas, vous allez disparaître. Alors, comment il va allier cette disparition et cette promesse éternelle? C'est là qu'on va rentrer on va voir ce qui va se passer entre ces deux choses contradictoires.
Et on le voit où, ça?
On va voir. Attends la suite.
Mais il ne reste plus que 10 minutes.
Ah bon? Alors, cette éternité, ce dilemme dans lequel ce dilemme-là, c'est comme avec un enfant. Un enfant que vous aimez, et puis cet enfant, il ira. Il ira complètement. Alors, souvenez-vous, avec certains groupes, pas le groupe 4, on n'a pas encore vu, mais c'est ce verset que l'on avait souligné, on le voit à deux reprises, c'est Yahvé est celui qui supporte tout, qui porte tout, donc qui pardonne tout, mais qui ne laisse rien passer.
Exode 14, 18.
Très bien.
C'est facile, Arthur.
Vous voyez, donc le dilemme, c'est contradictoire. Comment peut-il tout pardonner et rien laisser passer? Et ce rien laisser passer, c'est quand même la destruction. S'il détruit, c'est qu'il ne pardonne pas. Vous voyez, hein? Et finalement, cette phrase, on l'avait vu, on avait parlé avec le proviseur qui est parti de notre groupe, là. C'est le dilemme des éducateurs et des responsables d'établissement. Ils doivent tout supporter, ces enfants, tout porter, et en même temps, ne rien laisser passer. Grand paradoxe et grande difficulté à travers ces deux contraintes de se faire un chemin. Donc c'est ce chemin, ces deux contraintes dans lesquelles se trouve Yahvé. Et donc il ne va rien laisser passer. Et ne rien laisser passer, ça veut dire qu'il va y avoir un châtiment. Hein, un châtiment. Et les prophètes vont annoncer le châtiment. Hein, puisqu'ils trouvent l'idole, il n'y a pas d'issue. Et vous allez à la mort, à la disparition. Il va y avoir donc ce châtiment qui va être annoncé par les prophètes, et un châtiment qui va être quand même assez terrible, puisque c'est la mort. Ce peuple-là ne peut pas vivre tel qu'il est. Bon, alors, je vous passe toutes les aspects parfois un peu succulents, enfin, très 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 réaliste hein, de ces châtiments hein, qui vont tomber dessus. Il le compare à une prostituée, le peuple, parce que le peuple c'est à la fois son enfant à Dieu, mais c'est aussi d'une certaine façon c'est son épouse, et c'est une épouse qui l'a trompé, donc c'est une prostituée hein, à cause des multitudes de tes débauches, des débauches de la prostituée, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Habile en sorceleuse, Israël, habile en sorceleuse, parce qu'elle était glorieuse avec Salomon, elle était quand même d'une grâce esquise, qui asservissait les nations par ses débauches, les peuplades par ses sortilèges, ils ont exploité, donc, me voici contre toi, oracle de Yahvé, je retrousserai ta jupe jusqu'à ta figure, pour exhiber devant les nations ta nudité, devant les royaumes ton infamie. C'est un peu brutal.
C'est de quoi? C'est de qui?
Ça, c'est de Nahum, verset 3, 4, verset 6. Mais cette prostituée, Yahvé continue à l'aimer. Et continue à l'aimer. Je te supporte tout, je porte tout. Sa promesse, elle est fidèle. Il y a le châtiment, mais en même temps, il y a la promesse qui est fidèle. Ouais. Et alors, Yahvé dit chez Isaïe, au chapitre 42, 14, « Je suis depuis longtemps resté inactif devant cette décadence du peuple. Je ne disais rien. Je ne disais rien.
Hein.
Je me contenais comme une femme en travail. » Il y avait ce... se compare à une femme en travail. « Je gémis, je suffoque et je suis oppressé tout à la fois. » Vous voyez que cette dérive, quel effet a sur ce Dieu qui aime ce peuple. Bon, il n'est pas très glorieux, certes, mais il l'aime. Bon, il est infidèle, mais il l'aime toujours. Donc, il y a une double force qui est la fidélité de Dieu, mais qui ne laisse rien passer et qui souffre. Donc, le châtiment fait mal à Yahvé, mais... Malgré tout, il est persévère dans sa promesse. Vous pouvez faire des comparaisons avec le parent, hein, par rapport à l'enfant. Voilà, donc, il va y avoir la destruction du peuple. Et il y a plusieurs phases. En 780, ça va être le nord qui va être liquidé. Et puis, en 597, c'est le sud. Donc, c'est la déportation à Babylone. Donc, ce peuple, composante du peuple, un territoire, un culte, donc un temple, ils avaient un temple, le temple de Jérusalem, un culte, un territoire, et qu'est-ce qui me manque
Un gouvernement,
donc un roi. Un roi dont ils avaient reçu la promesse d'une royauté éternelle. Or, tout ça s'écroule. Du fait de tout ça s'écroule. Et ils sont en exil à Babylone. Alors, quel est le sens de cette promesse? Puisque tout disparaît. Tout disparaît. Eh bien, les prophètes, à ce moment-là, vont réveiller le peuple. Non seulement... Alors, ils ont commencé par dénoncer les péchés, c'est-à-dire c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dénoncer les péchés, ils vont annoncer le châtiment qui va avoir lieu, ça va être la déportation à Babylone, la disparition de le peuple, et à ce moment-là, ils vont intervenir pour annoncer une restauration. Alors, là, c'est une rupture. C'est une rupture qui a lieu donc à Babylone. Alors, je reviens sur les promesses, qui ont été faites tout au long de cette période jusqu'à Babylone, et de l'alliance qui a été faite entre Dieu et le peuple. Cette alliance, elle va rester vraie, mais pas dans le schéma mental qu'avait le peuple au moment où il y avait cette alliance. Donc cette alliance, elle avait certaines limites dans l'esprit du peuple. Elle était limitée à un territoire matériel, à un gouvernement matériel, un peuple, royaume, et un culte matériel. Or, toutes ces composantes-là vont être transformées, dématérialisées, symbolisées, et les prophètes vont annoncer une nouvelle alliance. Et l'alliance première était limitée. Il y avait une limitation matérielle. Un territoire, Hein, c'est limité. Un gouvernement, c'est limité. Un temple, c'est limité. Hein? Donc, il y a finalement, là aussi, un grand paradoxe, c'est que cette destruction du peuple va ouvrir. Les prophètes vont enseigner que cette destruction du peuple a un sens et qu'elle va ouvrir, elle va les limites qui étaient de la première alliance. Donc ils vont annoncer une nouvelle alliance qui va déborder les limites de la première alliance. C'est donc ça va être le grand paradoxe de cette disparition du châtiment, c'est-à-dire que à travers ces malheurs.
Je trouve ça va bien avec la nouvelle alliance.
Pardon, excusez-moi, j'aurais dû.